Beaucoup de travail a été fait pour faire en sorte que ce communiqué du GAC puisse être accepté par le conseil d'administration et puisse être mis en œuvre. Bobby va nous parler un petit peu plus sur des améliorations qui ont été faites au niveau des contrats. Robert Flame. Avant la création de ce groupe, il y avait les recommandations d'application de la loi. Cela a fonctionné pendant un certain nombre d'années, de 2009 jusqu'à 2013. Nous avons participé à ce type de politique, les spécifications en matière de HUIS, les services d'enregistrement fiduciaire d'anonymisation. Notre travail donc au sein de ce groupe de travail concerne la sécurité publique. Et je vais vous montrer les améliorations en matière d'exactitude du HUIS. Nous allons par la suite en reparler. Catherine va nous donner un bref aperçu par rapport à cette exactitude du HUIS et pourquoi cela est important au niveau de la sécurité publique. Je vais vous donner un avant-goût de ce que fait l'Europe par rapport à la protection de données au niveau des lois européennes et en matière d'exactitude du HUIS. Nous avons travaillé dans ce domaine pendant 10 ans dans différents groupes de travail auxquels j'ai participé. L'une des grandes leçons à tirer de ce travail, c'est que même si nous sommes un petit groupe au sein du GAC, cela fait longtemps que nous travaillons dans ce type de domaine et maintenant nous travaillons donc au sein du GAC. Voyons notre travail récent. Comme Alice l'a dit au départ, si vous êtes intéressé à connaître plus en profondeur le travail que nous avons fait, le site du GAC contient ces informations. Le site du GAC a un espace public. Il ne faut pas être membre de GAC pour accéder à ces informations. Et là, vous trouverez donc le travail du groupe ainsi que d'autres informations sur les représentants du groupe de travail, ainsi que des commentaires que nous avons présentés. Voilà l'endroit où vous trouverez davantage d'informations si vous voulez en savoir plus sur notre groupe. On va passer en revue les parties les plus importantes de notre travail. On va vous parler de contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement 2013, le RAA 2013. Cela a jeté les bases d'un travail futur, notamment en ce qui concerne la spécification concernant le HUIS. En 2015, il y a eu des discussions par rapport à la façon dont la spécification concernant le HUIS et qui fait partie du RAA serait traitée. L'ICANN et les bureaux d'enregistrement avaient rencontré des difficultés. Il y a eu des commentaires, il y a eu une période de consultation public auquel a contribué le groupe de travail sur la sécurité publique. Nous avons fait cela. Nous avons également fait des commentaires au groupe de travail qui travaille sur les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, ainsi que le groupe qui s'occupe du RDS concernant le HUIS. Même si au départ nous avons pas eu suffisamment de représentants des agences d'application de la loi, ce groupe a été ouvert à d'autres agences de protection des consommateurs et d'autres groupes ou organisations qui s'occupent de la sécurité publique, d'organisations aux États-Unis et d'autres agences qui travaillent dans le domaine de la sécurité publique. Des commentaires ont été reçus par le groupe de travail et nous les avons analysés. Nous avons ensuite l'exactitude du HUIS. Avant la réunion de Buenos Aires, l'ICANN et les bureaux d'enregistrement avaient fait des commentaires par rapport à l'exactitude du HUIS. Et nous voulions mieux comprendre les spécificités de ces commentaires qui avaient été formulés. Nous voulions obtenir davantage d'informations et de spécifications par rapport à ces commentaires. Comme vous allez l'entendre par la suite, nous avons travailler là-dessus et nous sommes intéressés à obtenir davantage de spécifications par rapport à cela. Le RAA 2013 a des implications en matière de vérification de l'exactitude des informations de quiz par les bureaux d'enregistrement. Si ces vérifications ne sont pas faites ou s'il y a des réclamations, il y a des actions qui s'en suivent. Et certains commentaires visés justement à ce type de réponse qui devrait être tenu au cas où un bureau d'enregistrement ou la personne ou au cas où la personne qui doit fournir ces informations ne le faisait pas. Nous avons également travaillé dans le domaine des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. Ce service permet aux entités de cacher des informations. Il y a des raisons pour lesquelles ils font cela et il y a des inquiétudes par rapport à cela. Le groupe de travail sur la sécurité publique a commenté certains cas et nous avons dit qu'il fallait établir une différence entre la disponibilité de ces services. S'il y a, par exemple, des services commerciaux qui sont utilisés, dans ce cas-là, le consommateur doit fournir des informations de carte de crédit, etc. Et à ce moment-là, on a le droit de savoir à qui on a affaire. Et donc, les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire ne devraient pas être disponibles dans ce type de situation. Ensuite, il devrait y avoir une certaine transparence et reddition de comptes de la part des fournisseurs de ce service. Une agence d'application de la loi doit pouvoir demander les informations par rapport à qui est derrière un certain service. Si cela est prévu dans les lois locales, car les agences d'application de la loi doivent pouvoir mener à bien des enquêtes et accéder à certaines informations. Ensuite, pardon, ce n'était pas le micro correct. Nous avons également présenté des commentaires sur les services au quiz de nouvelle génération, dont il va vous parler plus en détail. Il s'agit d'une question très compliquée. Il faut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui au niveau du quiz pour voir s'il devrait y avoir un nouveau système qui le remplace. Et à ce moment-là, il faudrait savoir à quoi devrait ressembler ce nouveau système. Et nous avons mis l'accent dans nos commentaires par rapport au rapport préliminaire. Nous avons mis l'accent donc sur le fait de savoir que ce nouveau système doit trouver un équilibre, car il doit respecter les droits des consommateurs, préserver la sécurité publique et assurer la protection des données personnelles des internautes. Nous travaillons pour que les canaux de communication soient ouverts, car les intérêts doivent pouvoir être réconciliés. Il faut pouvoir préserver la confidentialité et en même temps les droits des consommateurs. Les agences peuvent être en contact et un certain équilibre peut être retrouvé. La question du whoist reste un domaine très important pour nous.
Robert Flame prend la parole. Le représentant de l'Agence nationale du crime va vous parler de la spécification 11, à savoir le cadre de sécurité du contrat de registre, quelque chose qui est né après l'avis du GAC de Beijing il y a quelques 2 ans et demi. John a travaillé depuis avec le groupe de travail, avec les registres, pour établir des pratiques volontaires, essayer de voir comment travailler dans les cas d'abus, botnet, hameçonnage, logiciels malveillants, exploitation des enfants, afin de trouver, d'arriver à un accord coopératif avec les registres et travailler de manière efficace avec ce type d'abus. C'est un petit résumé que je vous fais maintenant. Après, on va parler davantage. Laureen reprend la parole. Lauren Caton, quel est notre travail à l'avenir? Nous espérons avoir la représentation du groupe de travail qui s'occupe des questions liées à la concurrence, le choix et la confiance du consommateur, qui aura un rôle central pour considérer tous les aspects dans ces domaines. En plus de l'exactitude du juice par rapport aux informations des domaines, il y a aussi quelque chose d'important. Robert Flame, oui, il y a quelque chose aussi d'important lorsqu'on voit les abus, etc. Nous voyons l'autre partie du système de DNS, les adresses IP, qui est gérée par les RIR, les registres Internet régionaux. Et en dehors de l'ICANN, les ASSO, nous avons les organisations des ressources numériques qui essaient également de travailler sur ces questions avec les contrats d'accréditation des bureaux d'enregistrement et on nous demande de faire la même chose. Les RIR sont 5. Alors, nous travaillons avec ces 5 RIR pour pouvoir développer et coordonner une politique globale pour que ils aient tous le même genre de pratique volontaire, garantissant l'exactitude du juice et aussi le processus de recherche d'antécédents. Lauren Caton prend la parole. Pour ce qui est du travail du groupe sur la sécurité publique, nous voulons avoir davantage de participation et de collaboration avec d'autres groupes de travail au sein de l'ICANN. Nous voulons pouvoir arriver à d'autres acteurs gouvernementaux. Il y a un grand nombre d'organismes avec des personnes qui connaissent très bien certaines questions, des gens qui pourraient nous aider dans notre travail et nous servir de guide. Il y a bien entendu d'autres parties intéressés au sein de l'ICANN qui ont beaucoup d'informations très importantes pour nous et nous essaierons donc de pouvoir les rapprocher et nous bénéficier de toutes leurs connaissances au sein de la communauté de l'ICANN. Voilà donc un panorama général du type de travail que nous avons fait jusqu'ici dans notre groupe de travail. Nous espérons continuer de progresser dans l'avenir. Je voudrais savoir si vous avez des questions à poser sur ces questions, parce que ce serait le bon moment pour vous d'utiliser les micros disponibles dans la salle. Il y a d'autres présentations, mais nous trouvons que c'est plus organisé de faire la séance de questions-réponses après chaque présentation. Alice Mounia prend la parole. Merci Bobby, merci Lauren. Il y a 2 micros ici dans la salle. Si vous voulez vous rapprocher pour poser vos questions, merci. Dites votre nom s'il vous plaît. J'appartiens au conseil de la GNSO, du groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement. Depuis le début, nous travaillons sur l'exactitude du juice. C'est une question importante. Cependant, il y a aussi la question de l'anonymisation, de la privacité. Je voudrais savoir si ce groupe de travail avec les antécédents qu'il a, il peut aussi travailler sur les conséquences de la privacité en matière de juice, sur l'exactitude aussi par rapport aux utilisateurs de ce nom de domaine et voir comment on peut protéger les données privées des titulaires des noms de domaine. C'est un juice public dont vous avez besoin ou quelque chose de différent? Robert Frame prend la parole. Je crois que ces réponses seront répondues lorsque Catherine va vous parler de la protection des données en Europe et d'autres questions qui créent des défis dans les prochaines générations et trouver un équilibre entre ce qui fonctionne ou pas. Je pense que nous allons pouvoir répondre à vos questions pour pouvoir aborder vos inquiétudes. Bonjour, je m'appelle Arthur Sonnenberg. Je travaille pour un bureau d'enregistrement hollandais accrédité par l'ICANN. Et en plus de ce point de l'Union européenne, quelles seraient les questions à la Commission fédérale du commerce en matière de vie privée et par rapport à l'Union européenne? Eh bien, je voudrais savoir quels sont les fondements, par exemple, sur ce que vous avez parlé lorsque l'on donne les données de la carte de crédit. Cela vous donne le droit de savoir qui est derrière le site web, de savoir avec qui on a affaire. Et dans le cas d'une affaire en ligne, ce serait logique d'avoir un service. Mais il s'agit d'un activiste qui travaille contre certains intérêts. Et c'est, voilà donc pourquoi il veut maintenir la vie privée, le respect des données de la vie privée. Alors, il faudra respecter la confidentialité pour donner du soutien aux personnes qui travaillent en faveur de certains intérêts. Les États-Unis ont fait l'objet de critiques normalement parce qu'ils répondent à ces intérêts. Je voudrais savoir si le fait que je vous donne le détail de ma carte de crédit vous habilite à connaître mes données personnelles. Lauren Cage, je veux dire qu'il y a différentes opinions par rapport à cette question. Du point de vue de la protection du consommateur, s'il y a quelqu'un qui fournit ces données sensibles, et vous pouvez être en désaccord, bien entendu, nous considérons que nous avons le droit de savoir à qui nous avons affaire. Et je comprends bien les questions sensibles ayant trait au groupe qui défendent certaines positions. Ils peuvent défendre leur propre point de vue. Mais si on a affaire à des informations sensibles, nous considérons que les consommateurs, que le public a le droit de savoir avec qui il a affaire, avec qui il est en contact. Et voilà un point de vue. Nous savons bien que pas tout le monde partage notre point de vue. Bonjour. Une oratrice non identifiée, j'ai pas une question, j'ai un commentaire. Ici vient du GAC, mais ici, il y a des membres des organismes de l'application de la loi et il y a des membres d'autres pays qui n'ont pas participé de ces procédures. Et je m'appelle Gloria et je viens de l'Ouganda, du Ghana, pardon. Bonjour, je suis Li Hebat de Strasbourg, du Conseil de l'Europe. J'appartiens à une organisation formée de 47 pays. On a signé la Convention de Budapest, la Convention de cybercriminalité, et nous travaillons aussi sur la vente de médicaments en ligne, le soin de la santé et la question des pharmacies sur Internet. Je veux que le Conseil de l'Europe participe aussi. Nous sommes membres observateurs du GAC et nous aimerons bien participer et collaborer avec la connaissance et l'expérience des différents groupes du Conseil de l'Europe. Nous avons beaucoup à partager avec vous et nous le ferons dans votre liste de diffusion où nous avons envoyé des commentaires. En juin de cette année, ces 47 pays ont accordé une déclaration sur l'ICANN, les droits de l'homme et l'état de droit. Cela pour garantir que l'ICANN respecte les procédures et les droits de l'homme dans ses politiques et ses procédures. Je vais donc vous passer cette information à travers mon collègue qui va prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Peter. Je représente le TPD du Conseil de l'Europe, qui est un organe consultatif qui s'occupe de la Convention 108. Je suis heureux d'être ici. Et comme mon collègue, je veux coopérer et collaborer avec notre connaissance et notre expérience sur la protection de données dans la mesure du possible. Je crois que, comme notre collègue des États-Unis l'a bien dit, le mot correct serait équilibre. On peut toujours trouver une solution et le mieux, et je le dis comme fonctionnaire qui travaille comme autorité de protection des données, le mieux c'est de s'asseoir, de débattre des questions et de définir les meilleures solutions possibles. Nous sommes heureux d'être ici, je répète, et nous offrons notre collaboration, notre énergie, nos connaissances et notre expérience. Merci beaucoup. Alice Bougna reprend la parole. Merci au Conseil de l'Europe. Nous aurons une réunion avec vous au GAC. David Cake prend la parole. Je veux faire deux commentaires, un commentaire spécifique et un commentaire général. Le premier, c'est que nous avons reçu vos commentaires au groupe de travail PAI et gardez à l'esprit que nous considérons tout cela, mais nous avions déjà débattu ces questions en profondeur. Nous avons reçu 60 000 réponses. En général, vous êtes arrivé un peu tard avec votre collaboration, alors je crois que vous devez participer de manière plus précoce. Je sais bien qu'il s'agit d'un nouveau groupe, mais je voulais vous informer qu'il faudrait peut-être davantage de participation de votre part. Et l'autre commentaire plus général, les organes chargés de la protection des données et les lois de protection, eh bien, ils sont consacrés à la sécurité publique et à la protection des données. Mais dans votre groupe, ils sont absents. Alors, nous pensons qu'ils ont leur mot à dire ici. Ils veulent faire entendre leur voix. Ils sont une partie très importante de l'application de la loi. Alors, il est important que vous soyez un groupe qui représente tous les points de vue des organes de la sécurité publique et de l'application de la loi. Je vous suggère donc d'être plus inclusif, notamment pour les organismes qui ont trait à la sécurité publique et à la protection de données. Alice Mounia reprend la parole. Merci, David. Nous, on n'est pas un groupe qui fait du lobbying, oui. Je comprends bien, mais vous devez vous assurer d'être suffisamment inclusif et justement inclure toutes les voix et vous devez aller les chercher. Alice Mounia, nous prenons très au sérieux ces commentaires. Hier, nous avons parlé de la question lorsque vous avez participé des débats à la GNSO. Et la question est du fait que le GAC doit participer de manière plus précoce, normalement dans le PDP. On travaille pour y parvenir, mais il faut comprendre aussi comment nos gouvernements fonctionnent. Il faut consulter avec nos parties prenantes, il faut consulter nos villes capital et je m'excuse si nos commentaires arrivent un peu en retard. On va faire tout le possible de travailler dans les processus de plus près. Il y a des membres qui vont participer de différents groupes de travail pour pouvoir faire leurs apports de manière directe comme groupe de travail du GAC. Merci de vos commentaires. David Cake comprend bien que ce groupe est relativement nouveau et certains groupes de travail vous précèdent. Alors, vous ne pouvez pas participer dès le début, bien entendu. Je vous félicite du travail du groupe de coordination du GAC de la GNSO pour que le GAC puisse participer de manière plus précoce dans le PDP de la GNSO. La GNSO veut recevoir votre contribution et nous voulons les recevoir le plus tôt possible parce que ce sera mieux pour tous, notamment la contribution du GAC. Et si toutes ces contributions arrivent rapidement, eh bien, l'idéal serait de les recevoir après le rapport initial. Et cela pourrait servir à indiquer la route à suivre par un groupe de travail. Ce serait plus facile et mieux pour tous. Et cela pourrait nous aider à donner réponse. Une réponse pour faire nos conclusions. Alice Mounier, merci David.
Je vous félicite et je remercie l'ensemble du groupe de travail. Je m'interroge beaucoup sur la question de la sécurité et la confidentialité, la sûreté des informations, surtout pour les pays comme les nôtres, le Sénégal et les pays africains, où aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a au sein des administrations et des gouvernements qui utilisent encore des adresses mail génériques, AO, Gmail, etc. Et le niveau de l'Internet n'est pas arrivé à un niveau où on a des points gouv dans nos pays. On a des hauts cadres qui travaillent partout dans les administrations et qui travaillent avec une adresse mail à la volée. Ils ont construit depuis qu'ils étaient étudiants ou depuis qu'ils ont... Donc, cette question est fondamentale. Et donc, l'Internet aujourd'hui est à un niveau où on ne peut pas le soupçonner, où des gens travaillent avec des données confidentielles dans des présidences des républiques, dans des primatures, dans des administrations de haut niveau, et qui ne se rendent pas compte qu'ils utilisent où, Gmail, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut protéger ces personnes-là sans pour autant travailler avec les databases, ceux qui ont les databases, les bases de données importantes où les gens vont loger leurs informations confidentielles aux États-Unis, sans se rendre compte même qu'ils ont des données puissantes de l'État, vont aller héberger ailleurs. Parce que simplement dans les administrations, il n'y a pas des SI, il n'y a pas des politiques de gestion de messagerie, etc., etc. Et c'est plus flagrant quand à l'international, on voit certaines cartes de visite qui ont Yahoo, Gmail, etc. Donc, au-delà de ces aspects-là, purement techniques et technologiques, est-ce que vous travaillez avec le monde-là qui ont des données importantes et qui hébergent des données importantes? Quelles sont les articulations entre leur responsabilité à eux, votre responsabilité? Où est-ce que se limite où est-ce que se trouve la limite? Ou en tout cas, le travail que vous pouvez faire les uns et les autres, sécuriser les gens pour ne pas travailler qu'en amont, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on peut mettre en amont. Si au niveau des bases de données, on n'est pas sûr de la transaction, on n'est pas sûr de la transition, on n'est pas sûr du cheminement des informations sur lesquelles on travaille, il y a un gros problème, en tout cas, de mon point de vue, qui nécessite beaucoup plus de réflexion. Travailler ensemble avec les différentes parties prenantes, les différentes personnes qui interagissent pour qu'un mail soit acheminé, les données soient transitées. Je vous remercie.
Lorraine Capon prend la parole. Je crois que vous avez présenté des questions très importantes. Et il faut bien évidemment faire une tâche de formation, d'éducation pour que le public connaisse comment être sûr lors des transactions en Internet et savoir comment gérer les courriers comme Gmail ou Yahoo, même si l'on dit que qu'ils appartiennent au gouvernement. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions qui sont très complexes. Mais ce que je sais, c'est que l'on a un besoin réel d'éduquer le public pour qu'il soit très prudent lors de l'utilisation de l'Internet, lorsqu'ils achètent un produit, lorsqu'ils accèdent à un site de réunion parce qu'ils ont reçu un courrier qui leur dit qu'ils ont gagné un concours, ou parce que quelqu'un est amoureux et a besoin de l'argent immédiatement. Ce sont des questions très importantes qu'il faut garder à l'esprit et sur lesquelles il faut travailler parce que vraiment la vie des gens peut être affectée de manière très négative parce que on veut profiter d'eux sur Internet. Alice Mounia.
Le fond de ma question la plus profonde, c'est quelle articulation, comment nous, ICANN, on travaille avec les parties prenantes, les Google, les grosses entreprises qui gèrent les databases. Qu'est-ce qu'on fait avec eux pour, de manière générale, essayer de sécuriser encore davantage les données qui transitent, même si en amont, je suis d'accord avec vous, que chacun doit être vigilant. Et chacun est en quelque sorte responsable des actes sur la toile. Mais in fine, je pense qu'il y a une responsabilité assez profonde de l'ensemble des grandes entreprises, des grosses bases de données et qui hébergent nos transactions. C'est un peu ça, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut être vigilant. Les mesures qu'on peut prendre ou en tout cas qu'on est amené à prendre pour aller au-delà et essayer de sécuriser.
Thank you very much for those comments.
Merci beaucoup de vos commentaires, mais il faut passer maintenant à la prochaine section. La collègue de la Commission européenne, Catherine, va vous parler de certaines questions liées à ce que l'on vient de parler, le JUIS, la loi de protection de données. Et là, nous aurons peut-être plusieurs exemples qui nous montrent la manière d'aborder ce genre de questions dans certains pays africains et ailleurs. Catherine prend la parole. Catherine, je ne sais pas comment je peux donner des solutions pour tout le monde, mais j'aime voir qu'il y a beaucoup d'intérêt sur la question. Comme Lorraine l'a déjà mentionné, il est nécessaire d'arriver à un équilibre. Et d'après mon expérience dans ce genre de débat, il y a eu toujours un bénéfice lorsque l'on commence avec des évidences solides. Je voudrais faire une brève introduction sur les normes de l'Union européenne qui gèrent la protection de données et les conséquences de ces normes pour des processus comme, par exemple, la reconception du JUIS.
Quand je préparais ma présentation, Je voyais l'histoire par rapport à Huiz et je me suis rendu compte que l'histoire de discussion sur la responsabilité, le fait de savoir si on a besoin d'une reddition de compte, se rapporte également à cette discussion sur le Huiz. J'ai trouvé la première mention, la première fois que cela a été mentionné, c'était dans la République de Platon, il y a 2001, où il y avait l'histoire de la personne qui gardait ses moutons et qui voulait donc les rendre invisibles pour pas qu'ils puissent être attaqués. Donc il est allé voir le roi et a renversé le gouvernement. Et ce que l'on voit dans ce livre de Platon, on voit qu'il y a un problème de reddition de compte, de responsabilité. Et la responsabilité a été vue comme une construction morale. Donc lorsque les autres ne peuvent pas nous voir, il n'y a pas d'encouragement pour agir de manière responsable. Ce serait la morale de l'histoire. Et je pense que nous ne devons pas forcément ici trouver un compromis. Je travaille en matière de cyberdélit et je me trouve à l'avant-garde de la protection de données pour éviter que des données confidentielles soient volées, pour que les images des enfants ne soient pas utilisées pour des délits sexuels. Et nous travaillons pour permettre aux organismes d'application de la loi de prévenir ce type de délit et protéger les gens qui en sont victimes. J'aimerais représenter les deux visions ici. Je vais faire un récapitulatif par rapport à ce que les organisations de protection d'application de la loi considèrent leur mission. Dans l'affirmation d'engagement de l'ICANN, on parle de l'obligation de garder un accès public opportun et ouvert à des informations Huiz publiques et exactes. Et ici, il faut donc analyser l'efficacité de la politique Huiz tous les 3 ans. Dans son communiqué de 2007, le GAC a établi des principes par rapport à ce que devrait être le Huiz. Le Huiz devrait contribuer à l'application de la loi, à la mise en place d'enquêtes et à l'application des lois internationales. Il devrait contribuer également à lutter contre les utilisations frauduleuses et devait également aider les entreprises et autres entités à lutter contre la fraude et sauvegarder les intérêts du public. Voyons maintenant les droits fondamentaux du point de vue de l'Europe. La confidentialité des données figure comme un droit dans la charte de l'Union européenne où l'on dit que tout le monde a droit à la sécurité et à la liberté. Tout le monde doit pouvoir être respecté dans sa vie privée, dans sa famille, dans sa maison. Cette charte de l'Union européenne est moderne en ce sens qu'elle contient des droits qui ont trait à la société informatique. Elle assure la bioéthique et la transparence. Mais la charte est encore plus spécifique en ce qui concerne la protection des données. Dans son article 8, elle fait référence au droit à la protection des données à caractère personnel. Ces données doivent être traitées de manière équitable et tout le monde peut y avoir accès pour s'assurer que ces données soient exactes. Très bien, il s'agit des droits clés dans une société démocratique. Mais il ne s'agit pas de droits absolus. Chacun de ces droits, le droit à la sécurité, à la confidentialité, des données à caractère personnel, doivent retrouver un équilibre par rapport à d'autres droits fondamentaux. Je vais brièvement vous montrer quelles sont les dispositions les plus importantes de notre directive, la directive 95/46/CE, concernant la protection des données à caractère personnel en Union européenne. Cette directive donc concerne la protection des individus en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel. Nous avons écouté beaucoup d'inquiétudes par rapport au fait qu'il n'y avait pas une directive unifiée en ce sens en Europe pour la protection des données. Et le problème principal, c'est que la base de tout était une directive à savoir un instrument législatif spécial contraignant au niveau des objectifs, mais qui laisse aux États membres la liberté de décider comment ils veulent la mettre en œuvre au niveau de leur loi nationale. Cela veut dire que nous n'avons pas un ensemble unique de lois, mais plutôt 28 lois différentes qui visent le même objectif, à savoir un même objectif, mais différentes lois. C'est un vrai défi et nous travaillons sur la rédaction de nouvelles lois sur la protection des droits pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre en place la loi ou appliquer la loi différemment dans les différents États. Nous pouvons donc avoir des réponses plus cohérentes de la part des pays européens une fois qu'on aura appliqué cet instrument. Je voudrais vous expliquer très brièvement la définition de données à caractère personnel que l'on utilise en Union européenne. Il s'agit de toute information liée à une personne identifiée ou identifiable. On ne parle pas de la sensibilité de l'information ici. Le seul facteur fondamental ici est le fait de savoir si l'on peut identifier ou pas une personne. Un nom, une adresse IP peut être considérée une donnée à caractère personnel. Dans l'exemple de l'Union européenne, un citoyen qui travaille pour la Commission européenne et qui a plusieurs citoyennetés peut être considéré comme ayant des données personnelles. Ces différentes citoyennetés peuvent être considérées comme des données personnelles. Peu importe si l'information est sensible ou pas. Il s'agit de données à caractère personnel. Il y a un autre concept clé qui a été déjà mentionné. Tout ce que l'on fait avec les données, c'est les traiter. On peut les stocker, les éliminer, les divulguer, mais tout cela rentre dans ce que l'on appelle le traitement. Quand on collecte des données pour les traiter, il faut qu'il y ait un objectif spécifique. Le nombre de données doit être pertinent par rapport à l'objectif poursuivi. L'information doit être mise à jour. On ne peut pas garder l'information plus longtemps que nécessaire et tout exercice doit avoir une raison légitime. C'est-à-dire que la personne propriétaire de ces données doit avoir donné son consentement ou parce que ces informations sont nécessaires pour signer un contrat, etc. Qui sont les acteurs pour la protection des données? Je vous ai parlé de l'adoption des réglementations par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Ces acteurs, ce sont la Commission européenne qui doit proposer les lois et surveiller leur mise en œuvre. Ensuite, on a les autorités de protection de données au niveau national qui doivent surveiller la mise en œuvre de la protection des données au niveau national. Et ensuite, le groupe de travail sur l'article 29, dont vous avez entendu parler probablement, parce que ce groupe a fait des commentaires dans différentes consultations. Il s'agit d'un groupe de travail qui regroupe les autorités liées à la protection des données au niveau national et la Commission dans une fonction consultative. Ce groupe conseille par rapport à la mise en place des lois de protection. Et puis on a la justice de l'Union européenne, le seul organe autorisé pour interpréter les lois en matière de protection des données. C'est eux qui nous donnent les réponses en ce qui concerne la mise en œuvre des réglementations en matière de protection des données. Cela veut dire, du point de vue du CRUIS, on est en train de modifier le CRUIS. Et il y a trois éléments clés dont il faut tenir compte du point de vue de la protection des données dans l'application de la loi. D'un côté, la disponibilité. Comme on vient de l'apprendre, ces données doivent être collectées à des fins légitimes, pour des raisons légitimes, avec le consentement de la personne faisant l'objet de ces données. Et tous les services de répertoire doivent s'assurer qu'il soit très clair l'objectif ou la finalité pour laquelle on utilisera ces données. Il y a une composante de responsabilité ici. La collecte de données doit correspondre à l'objectif souhaité. Et le fait qu'il s'agisse d'un système public et que l'ICANN, dans son affirmation d'engagement, se soit engagée à le préserver ainsi, c'est un élément clé. Du point de vue de la protection des données, la directive ne dit rien par rapport à la limitation de l'accès aux données. Mais si l'on pense à l'esprit de la loi, ce serait très utile de ne pas divulguer les données de manière innécessaire. Et en ce qui concerne l'exactitude, c'est assez simple parce que quand on parle des organisations d'application de la loi et de la protection des données, nous voulons tous que les données soient exactes. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et avec grand plaisir, je répondrai à vos questions. Alice Mugno prend la parole. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vous prie de vous rapprocher du micro pour faire vos commentaires. Nous pourrions donc avancer et passer à la présentation suivante, où nous allons voir des exemples de Ruiz. Greg va faire cette présentation. Il appartient au Centre de cyberdélit européen. Gregory Mounier prend la parole. Merci. Pardon, Alice Mounier prend la parole. Il y a une question. J'appartiens au groupe de bureau d'enregistrement du Conseil de la GNSO. Je tiens à vous remercier de cette présentation tellement intéressante sur la position européenne en matière de protection de données. Beaucoup d'entre nous, dès le départ, il était très clair que le RUIS, tel qu'il existe aujourd'hui, a beaucoup de données à caractère privé de millions de citoyens qui sont publiées de manière quotidienne. Et cela pose problème du point de vue de la protection des données au niveau de l'Europe ainsi qu'au niveau d'autres pays. Nous avons besoin de mettre en place une révision claire comme celle qui a lieu maintenant pour nous assurer que ces données ne soient pas librement disponibles comme c'est le cas aujourd'hui. Et du point de vue du groupe de travail sur la sécurité publique, comment ce type de régime devrait être mis en œuvre? Catherine Bauer-Bulz prend la parole. Je suis d'accord avec vous pour dire que l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas un accès ouvert et complet à les données qui sont disponibles. Mais comment peut-on trouver un compromis entre cela et la fonction que doit assurer le RUIS dans la pratique? Dans l'Union européenne, il existe des lois qui exigent que certaines informations soient publiées sur les sites web. Par exemple, pour tout acteur qui ne agit pas à titre personnel, c'est-à-dire qui ne publie pas ses photos, mais plutôt les photos de sa famille, de ses amis, etc. Dans ce cas, la personne doit inclure dans son site web des informations détaillées de contact pour pouvoir assumer la responsabilité au cas où un délit serait commis. Il est très difficile donc de retrouver un équilibre. À ce stade, je ne suis pas sûre qu'il existe un système parfait, mais il faut essayer d'écouter les avis des uns et des autres et trouver donc une solution de compromis. Malheureusement, on n'a pas de solution parfaite. Le représentant du public reprend la parole. Je comprends très bien qu'il n'y a pas une solution parfaite, mais lorsque vous présenter ce sujet, il est important d'établir une différence par rapport au contenu, par exemple, qui peut apparaître sur un site web où des informations sont exigées pour, par exemple, ne pas mettre les adresses privées des individus, et une différence entre là et l'enregistrement des noms de domaine qui peuvent être utilisés pour envoyer des courriers électroniques parce que les titulaires sont là obligés de publier des données privées. J'aimerais donc savoir comment des registres européens gèrent et publient les données RUIS, ce que fait Nominet, ce que feront d'autres registres de l'espace européen. Il y a beaucoup de données qui sont visibles au public, des données qui se limitent à un nom ou à une adresse parfois. Mais il est important que l'on puisse voir cela pour établir un modèle pour la présentation des données à caractère privé lorsque l'on l'analyse. On analyse cela dans le contexte de l'ICANN. Alice Mounia, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter. David Cake prend la parole, membre du collège GNSO. Encore une fois, j'ai un commentaire général et un commentaire spécifique. De manière générale, je crois que c'était une présentation intéressante. Merci beaucoup, car elle met l'accent sur le besoin de penser aux différents éléments du quiz et aux principes auxquels nous devons adhérer à long terme. Elle parle aussi des critères qui pourraient changer ou des prérequis qui pourraient changer. J'ai vu cela dans les différents sites web que l'on envisageait de fermer parce qu'ils ne respectaient pas certains critères. Je pense que l'on doit être flexible quand même et trouver un équilibre entre les éléments qui peuvent changer et les éléments qui ne peuvent pas changer. Que l'on parle des éléments qui peuvent changer, nous avons les services d'annuaire de données d'enregistrement de nouvelle génération, RDS. Il y a un PDP concernant ces services sur lequel travaille la Geneso. Et il y aura un grand effort pour essayer de répondre aux questions en ce qui concerne l'accès à certaines données, quelles sont les données collectées, etc., qui peut voir les données. Il est important qu'il y ait une participation dans la période de consultation publique, mais il serait important aussi que l'on puisse travailler avec le groupe de travail sur l'article 29 ou des entités qui puissent avoir une expertise en matière de protection de données. Je pense que cela serait vraiment très utile parce que cela nous permettrait de répondre à des questions spécifiques. Je vous suggère donc d'essayer de faire en sorte que des gens ayant ce type d'expertise puissent participer à votre travail. Je pense qu'à l'ICAN, il nous faut trouver ces gens qui ont des expertises par rapport à la confidentialité des données, comme par exemple c'est le cas des gens qui travaillent dans ce groupe de travail sur l'article 29. Alice Monnier prend la parole. Très bien, c'est pour cela que le groupe de travail a créé ce groupe de travail et nous allons faire en sorte que les gens ayant cette expertise puissent participer à ce processus de manière précoce. Merci beaucoup. Une femme du public prend la parole. En ce qui concerne le groupe de prenantes de registre, je pense qu'il y a des positions divergentes par rapport à ce qui a été dit dans les commentaires sur le groupe de travail qui travaille en ce qui concerne les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. On encourage donc un accès ouvert aux informations de WHOIS pour ce type de données. J'aimerais que l'on m'explique ou l'on me clarifie cela, car je pense qu'il y a certains éléments que vous avez présentés qui vont contre ce qui a été proposé. Catherine Bauer-Wells prend la parole. Vous parlez de moi ? Très bien, je ne m'étais pas rendu compte. Je ne suis pas très sûre de savoir où est la contradiction. Ce que je voulais vous présenter, ce sont deux perspectives différentes. D'un côté, la situation idéale du point de vue de la protection des données et d'autre part, la situation idéale du point de vue des organismes d'application de la loi. Comme je vous ai dit au début de ma présentation, il y a le droit à la sécurité et le droit à la vie privée. Et ce sont des droits fondamentaux du point de vue de l'Union européenne et dans d'autres régions du monde. Aucun de ces droits ne peut être exercé de manière absolue. Dans la pratique, ce que l'on essaye de faire, c'est de parvenir à un équilibre. C'est ce que l'on doit faire dans ce processus d'élaboration de politique. Merci encore de m'avoir invité à participer. D'avoir suggéré que des gens représentant le groupe de travail sur l'article 29 puissent participer. Je vais me charger de contacter ces personnes et je vais m'assurer qu'ils sachent que vous voulez qu'ils participent. Nous espérons pouvoir retrouver un équilibre dans ce processus entre ces deux droits fondamentaux. Aucun de ces deux droits peut prévaloir et donc je ne pense pas qu'il y ait une contradiction ici. La personne du public reprend la parole. Je pense que ce serait utile, que ce groupe de travail tienne compte des commentaires qui ont été faits. Et ce serait intéressant d'avoir un exemple de ce que vous nous dites par rapport à l'équilibre recherché entre ces deux droits. Nous voulons bien sûr une certaine ouverture dans les informations de Ruiz et que cela soit équilibré par rapport aux besoins de protection des données à caractère. Il ne faut pas donc faire des déclarations absolues en ce qui concerne les informations du Ruiz. Catherine prend la parole. Je comprends très bien ce que vous dites. Et du point de vue de l'application de la loi, si nous n'essayons pas de faire en sorte que l'accès aux informations soit ouvert, c'est difficile de faire autre chose. Donc il faut se concentrer sur ce PDP de manière très prudente. Alice Mounia, je donne la parole à Greg.
Give you a few examples of where the WHOIS is useful for cyber investigators. I'm going to represent the law enforcement perspective. Just a few words about the organization I'm working for. Europol is the European Law Enforcement Agency. We are providing support, operational support, analytical support to the 28 member states and the police and law enforcement. On cybercrime, we have established in 2013 the European Cybercrime Center. We do not have executive power. We rely on information that is given to us on cases by the member states and our partners. On cybercrime, for instance, we work very closely with the UK NCA. We work very closely with the Americans, the FBI, ICE, etc. On cybercrime, we have mainly three operational teams. The first one is Point Terminal, who's dealing with online fraud, payment card fraud, etc. Then we have a focal point called Twins, dealing with child sexual exploitation online. And then lastly, we have the focal point Cyber, which focuses on cyber attack affecting critical infrastructure and information system. So that goes from the very basic attack to much more elaborated banking malware and botnets. To set the scene, so I was asked to come up with a few examples that really give you an idea of how the WHOIS can be useful for cyber investigators. There are many factors that comes into play when you are trying to solve a cybercrime case. But at the end of the day, I think it really often boils down to attribution. We all know that online there are many products and services that are very easily available to hide your trace online and to hide your identity. There are many examples, I'm not going to list them all, but the point is, in that context, the role of the WHOIS is sometimes critical. WHOIS is one tool, amongst many others, that the cyber investigators have to overcome the problem of crime attribution. To be honest, most of the top cyber criminals will not fall because they have the right, because of the WHOIS, really. They will always use the most advanced anonymity methods to hide their traces. But at least if we have a reliable WHOIS that is accurate with verified and validated user data, then we can drastically reduce the scope of the possibilities for criminals to hide their activities. So we need to raise the bar, and I think the WHOIS contribute that for the members, for the criminals. It really pushes them to resort to more complex techniques to hide their trace, and that's useful. The first case I want to present to you briefly is a case of a botnet. So I guess you're all more or less familiar with the botnet. I'm just going to say a few words about it. A botnet is a network of compromised computers infected by a malware that allows a criminal to control that network of computers and to issue commands that are the computers then orchestrate various criminal activities. And what the law enforcement is after, of course, is the command and control servers that allows the criminal to speak with the net. In terms of botnets and DNS abuse, I think that the abuse, if you're a criminal and you really master the DNS techniques, and if you manage to maintain a stream of new domain registrations, keep the botnet fed, then you really have a very robust and profitable botnet. If you manage, again, to get new domain names from registrars around the world at a very fast pace, not only you can sustain takedown requests, but you can also sustain sinkholing attempts and, of course, hijacking attempts from competitors that are also running very powerful botnet. And if they see that your botnet is also very useful, then they will probably want to hijack it. So the DNS technique is very useful for running good botnet. When I was asked to come up with this scenario, I went to the teams of proper investigators because I'm just a police advisor. And I sat with them and we went through a series of cases and they looked at it from the DNS and the OIS angle. And there was one case, it's a very recent operation, where the Cybuck team was targeting an organized crime group which was responsible for controlling a botnet deploying online banking malware. They were monitoring the group. And then in a private communication between one of the suspect and its accomplice, they shared details on the domain in question. So what they did is they did a simple Whois lookup on that domain, and that brought an email address that had been used for registering the domain. They then did a reverse Whois lookup on the email address, and that yielded a number of other domains that had also been registered using the same email address. So on those domain names, among those domain names, there was one domain which had been created by the individual in question a number of years ago, and he had used that domain to set up a personal profile, professional profile with CVs and photograph. Obviously, that was before his career as a cyber criminal. So when we used that personal details, we cross-checked it again the national database of the countries in which that person was living, and we found out that that was his real identity. So, of course, further investigation and sometimes later, we proved that that person was indeed an active cyber criminal, and that led to his arrest and conviction. So the main takeaway of that example is that if you have Whois data that is accurate, then you can attribute crime much faster than if you don't. And I want to now give you another example, also on the case of a net distributing web injects. And that's a negative example, in fact. So one of my colleagues actually spent 3 months recently on an operational analysis report surrounding the activities of also a cyber criminal who was developing web inkjet to target e-banking customers of banks all over Europe. Basically, what it was doing is that once the victim who had been infected by the malware would log on to its e-banking portal, then they would unknowingly be redirected to one of the domains registered by the criminal. And this domain would present the victim with a website very identical to the portal that the person was used to deal with. And then when the victim would enter his banking credentials, they would be harvested by the criminals and used for fraudulent transfers from the victim's account. So what my colleague found is that during over the last 3 months, the person, the suspect, had registered 18 different domains, all for WebInject, and targeting customers in Germany, in the Netherlands, and in the UK. And the suspect had used 4 different sets of identifiers to register these domains: names, email, address, and phone numbers. So he did the same technique, Whois, reverse Whois, and intelligent open source intelligence work on every single identifier, and this resulted to many other identifiers. None of which could lead to any real identity. The point here is that if you have a criminal that does his job properly, between brackets, then you spend very useful investigative time chasing ghosts. My colleague spent 3 months on that case, and he could not find the identity of the guy because the identifiers had been bought off the dark net. They were not legit. They were from identity theft activities. And so you can think that if the registrar at the time took the pain to validate those identifiers, then maybe my colleague would not have wasted that much time and he could have spent his very useful time investigating other cases. So that's just an example to show that when you don't have the accurate data, then we lose a lot of time. I'm looking at the watch, so I will not speak about this one. This is a very famous botnet that we took down together with the Brits in February. Same story. We wasted a lot of time because the Whois information was not accurate on the person we were chasing. But I want to finish up with a positive case. It's a child sexual exploitation case. These are websites that are run by organized criminals, criminal groups. They are not on the dark web. They are on the open web. So you can go on that website. And what they do is that they sell child abuse material online. So basically, how it works, that's for a monthly fee of about $99 per month, clients can have access, unlimited access to child abuse material. So what my colleague did was they looked on those websites and they gathered the domain names of those websites using open source monitoring and some other techniques. Then they gather the DNS information linked to those domain names, basically the IP associated to those domain names, using tools that are available to the registrars and to any investigators, such as Domain Tools API and so on. And then they gather a third set of data from the WHOIS associated to this identified domain. So in theory, what you get is a domain A has specific DNS information which indicate that that domain is linked to the IP A. Then domain B, DNS information indicate that domain B is registered to IP B, and so on. There's no link between the various domains. But when you start cross-checking the three sets of data, the DNA, the domain names, the DNS information, and the WHOIS data, then they often manage to find one valid email address that is common to all these those domains. This email is actually used by the registrant to register the different domains, and they need to use one valid email address to communicate with the registrars for billing purposes, for instance. And so the conclusion of that case was that they managed to arrest a group of criminals and to take down those websites. Unfortunately, the business is so good that they keep on popping up. So as a conclusion, again, I will restate a little bit what I've said. I think that accurate and reliable WHOIS data is extremely important for the law enforcement community to address cybercrime. It helps crime attribution, but it's not the silver bullet. If you are a very good cyber criminal, you won't fail because of WHOIS data. But at least it saves precious investigation time. And I think, and that's the most important, it really raised the bar for the criminals, makes their life more difficult. And I think that's what the law enforcement is after. Thank you very much.
Thank you very much, Greg. We have remote participants, and we have one question. All of GAC Secretariat can read it out for us, for the panelists. Thank you.
Michael Ilishibo. WHOIS is a powerful tool for cyber investigation. However, part of the registrants, they do normally give accurate names and addresses. Thus, it proves a difficult task during the way that the registrants will and only true details. So I repeat the last sentence. Is there any way that registrants also, how far has Europol gone in ensuring that cybercrime...
Thank you. Any of the panelists want to respond to that quickly?
Well, very briefly on Europol's capacity building programs. Unfortunately, we're not involved so much in capacity building program. We really support the member states' investigations. I think that Interpol has a much broader... portfolio in terms of supporting the capacity building in Afrique.
Je crois qu'il y a un portfolio de l'Interpol bien plus vaste pour donner le soutien aux informations en Afrique. Je crois que mes collègues ont quelque chose à dire. Catherine prend la parole. Nous avons ce type de programme de création de capacités pour les pays africains et nous avons de nouvelles opportunités de disposer des fonds pour les pays africains. Et nous analysons cela dans le domaine de la création de capacités en matière de cyberdélit. Alice Mounia, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Il y a 5 personnes qui veulent poser des questions. Je vous demande d'être bref pour que le reste des membres du panel puissent faire leur présentation. Merci beaucoup. Elliot Noss, to cause. Merci d'avoir répondu deux de mes 5 questions. Tout d'abord, vous avez fait un très bon travail du fait d'avoir décelé la robustesse pour les recherches. Nous savons bien que les délinquants ou les criminels font des erreurs bêtes et cela se passe aussi dans les affaires. Ceux qui font des erreurs bêtes ne restent pas dans le marché, ils sont remplacés par des gens plus intelligents. Mais quand on a affaire à la communauté qui se consacre à la sécurité, il faut parler avec eux de leur expérience avec les bureaux d'enregistrement et de leur échange avec les bureaux d'enregistrement pour obtenir des informations. Vous l'avez fait, c'est Grégory qui a la parole. Je n'ai pas parlé des rapports avec les bureaux d'enregistrement, mais les chercheurs me disent qu'en général, s'ils ont une bonne relation avec un bureau d'enregistrement, ils reçoivent une bien meilleure coopération que lorsque cette relation n'existe pas. Alors, on est en train d'éduquer les éducateurs pour créer une relation positive avec les bureaux d'enregistrement et avec le secteur privé, qui, pas mal de fois, a les outils pour résoudre une recherche d'un cyberdélit, de sorte à ce que le secteur privé sache quelles sont nos limitations, ce que nous faisons, et qu'il nous donne les informations dont nous avons besoin. Elliot Noss reprend la parole. Je crois que cela est encourageant. Ce n'est pas seulement une relation personnelle. Il y a beaucoup de données qui sont très importantes pour une enquête ou une recherche. En deuxième lieu, Alice Mounia reprend la parole. Elliot, je regrette de vous interrompre, mais nous n'avons que 10 minutes. Je demande au reste des personnes de nous envoyer les questions après la séance parce que nous n'avons plus de temps pour les présentations. Merci. Vous pouvez poser votre question qui sera répondue plus tard. Un orateur non identifié prend la parole. Merci de votre présentation. J'essaie de comprendre ce que vous avez décrit par rapport aux erreurs bêtes des cyberdélinquants. Je comprends aussi ce que vous avez dit par rapport à l'adresse de courrier électronique et de son importance. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui vole l'identité de Catherine et a une copie de son passeport, moi, comme bureau d'enregistrement, comment puis-je savoir que ce n'est pas Catherine qui le fait? La seule chose que je peux faire, c'est lui demander si elle a enregistré un nom de domaine quelconque. Alors, en général, nous contactons les gens par téléphone, mais il peut y avoir quelqu'un qui répond par téléphone et qui me dise « Oui, je suis Catherine, mais je ne sais pas qui c'est Catherine. » Alors, comment trouvez-vous que moi, je peux valider ce que je fais pour valider l'identité avec des méthodes que je ne vais pas divulguer? Et d'autre part, je n'ai aucun problème du fait que vous ayez mes données, mais j'ai des problèmes que mes opposants politiques possèdent mes données si je suis activiste d'une cause politique. Alice Mounia reprend la parole. Nous n'allons pas répondre aux questions maintenant. Vous pouvez continuer à les poser. Nous allons les répondre plus tard parce qu'il y a encore 2 présentations qui nous restent. Bonjour, je m'appelle Ashwin de l'Indonésie. En Europe, nous avons un concept qui dit « connaissez votre client ». C'est-à-dire qu'une banque doit savoir exactement qui est son client et voir le document d'identité. Et la même chose si vous voulez un courrier électronique, il faut savoir de qui il s'agit. Et si une société veut avoir un site web, il faut savoir quelle est la personne de contact technique et où sont situés les bureaux de la société. Un orateur qui ne s'identifie pas prend la parole. J'ai une question. Il est peut-être important de signaler qu'Europol travaille conjointement avec un régime de protection de données de très haut niveau, notamment sur EC3. Et il y a un groupe d'Europol qui mène des enquêtes sur la protection des données, le traitement de données au sein d'Europol, et qui connaît très bien, qui a beaucoup d'expérience sur la question. Et je reviens à ce que j'ai déjà dit à Europol. Il y a beaucoup d'expertise qui peut être importante dans les organismes d'application de la loi et dans toute la structure de notre secteur dans l'avenir. Wana Witakuputra reprend la parole. Je crois qu'il faut continuer. Je passe la parole maintenant au représentant du Royaume-Uni, du PSWG, qui a commencé à innover, à travailler, et qu'ils vont partager avec nous le travail effectué dans leur pays. Nous passons la parole à Nick Shuri en premier lieu. Nick Shuri prend la parole.
Merci beaucoup. Je travaille à l'équipe du GAC.
Donc je travaille dans ce sous-groupe du GAC qui travaille sur les activités de sécurité. Avant de m'occuper de la gouvernance de l'Internet, j'étais enquêteur en matière de cybercriminalité et problèmes de protection de consommateurs. Donc je peux voir cette question à partir de différentes optiques. Au Royaume-Uni, nous avons un grand nombre d'organisations gouvernementales qui sont responsables et qui s'intéressent à la sécurité publique, y compris la sécurité sur Internet. Pour répondre au lancement du PSWG, c'est-à-dire le groupe de travail sur la sécurité publique, nous avons réuni tous les départements afin de mener à bien une consultation par rapport à ces sujets. Nous avons donc parlé avec le bureau des douanes, le bureau qui se charge de la propriété intellectuelle, le bureau régulateur des médicaments, d'autres organes qui se chargent de la lutte contre la criminalité, ainsi que la coalition de lutte contre l'exploitation des enfants. J'ai ici John Carl qui appartient à cette coalition et donc nous espérons pouvoir répondre à cette question qui a été posée par David par rapport à la portée de notre travail au sein du groupe de travail sur la sécurité publique. Dans ce domaine, les gouvernements manifestent des préoccupations de manière très claire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à ce sujet et qui essayent donc d'interagir avec la communauté de l'Internet. Il y a des solutions pratiques qui ont été trouvées ici à ma gauche. Nous avons John Flirt, qui est enquêteur et expert en la matière. Il va nous raconter un petit peu ce qu'il a fait quand il a travaillé dans le groupe sur la spécification 11. Nous avons eu des réunions mensuelles à Londres pour élaborer des recommandations de consensus qui font partie de la réponse du Royaume-Uni au PSWG. Mais c'est une façon excellente de partager des expériences et d'échanger par rapport à la question des meilleures pratiques. En tant que gouvernement, pour voir comment nous pouvons travailler de manière efficace avec la communauté Internet et essayer d'apporter une solution à ces problèmes. Comme Fanny l'a dit ce matin, l'ICANN fait partie de l'écosystème de l'Internet, n'est qu'une partie de cet écosystème. Et dans notre travail sur la gouvernance de l'Internet, nous voyons qu'il s'agit d'un élément dans une stratégie plus ample. Nous participons au forum sur la gouvernance de l'Internet, c'en est un bon exemple, ainsi que dans le Conseil de l'Europe. Nous n'avons que 2 minutes, d'accord. Nick prend la parole. Excusez-moi alors. Nous voyons, Nick Shorey, nous voyons cela comme faisant partie d'une stratégie plus globale. Nous essayons de développer des ateliers d'une journée. Nous aimerions bien que les bureaux d'enregistrement ainsi que les sociétés qui s'occupent d'analyser les cybermenaces puissent contribuer au travail de ce groupe. Nous voulons encourager la participation et l'échange entre le gouvernement et la communauté de l'ICANN pour développer des solutions qui puissent être pratiques pour les uns et pour les autres. Comment participer? Si vous êtes membre d'un organe de la sécurité publique du gouvernement, vous pouvez travailler avec les représentants gouvernementaux qui soient présents à l'ICANN. Le groupe du Royaume-Uni peut également faciliter la participation d'autres membres ou peut faciliter le contact avec d'autres membres du GAC pour que vous puissiez prendre contact avec les organisations concernées. Parfois, on ne sait pas à qui s'adresser, donc vous pouvez nous adresser à nous et nous pouvons vous donner le point de contact au G7 ou quelqu'un qui travaille à la préservation de données de l'Europe. Si vous appartenez à la communauté, vous pouvez travailler de manière directe au processus de l'ICANN et vous pouvez ainsi collaborer pour trouver des solutions pratiques qui soient bénéfiques pour les uns et les autres. Wanavit Wakapoud prend la parole. Nous n'avons plus de temps. Je suis désolée, je m'excuse, mais nous n'avons que 2 minutes pour votre intervention. Très bien, John Flaherty. Je pourrais parler plus vite que ça. La spécification 11, on en a parlé déjà, elle concerne l'utilisation frauduleuse par rapport à l'utilisation des noms de domaine. Cette spécification a été créée à partir de l'avis du GAC à Pékin. Je peux vous en parler rapidement. Je peux vous expliquer quels sont les progrès qu'on a accomplis au niveau du groupe de travail. On va en reparler cette semaine dans la réunion de l'ICANN. En ce qui concerne la relation entre le groupe de travail sur la sécurité publique et les bureaux d'enregistrement, je suis co-présidente de ce groupe. J'ai travaillé dans l'enquête des cyberdélits au Royaume-Uni et on n'a pas eu de demande d'information et jamais on a trouvé de solution. Parfois, un registre met en place des innovations très intéressantes, mais voilà la relation qui existe avec les registres et nous n'espérons pas que tous les registres pourront nous donner une réponse, mais nous attendons d'eux qu'ils puissent nous aider. C'est pour cela que nous avons créé un cadre qui permette de mettre en œuvre ce type de relation. Nous nous sommes focalisés sur l'utilisation et la sauvegarde des nouveaux GTLD, la protection des nouveaux GTLD. Nous avons essayé de répondre aux menaces en matière de cybersécurité qui arrivent à partir des réseaux zombies, de l'hameçonnage, etc. Le groupe essaye de voir comment les registres répondent aux menaces en sécurité, car nous allons apporter des études de cas dans les séances que nous aurons avec les bureaux d'enregistrement et les registres pour leur montrer ce que l'on fait. Le groupe de travail est composé de professionnels, des gens qui travaillent dans l'application de la loi, la police, les registres, les bureaux d'enregistrement. Et maintenant, nous avons une voix. Nous pouvons donc essayer d'avoir une influence sur ce cadre. Tout le monde peut donc approfondir ses connaissances par rapport à ce type de menace afin de pouvoir identifier les délinquants. Nous développons donc un cadre de sécurité central sur lequel nous travaillons pour essayer d'établir les principes qui vont régir ce cadre. Nous voulons être assez souples, du point de vue technique. Nous savons qu'il y a des registres qui travaillent déjà avec ce type d'informations. Nous avons développé des principes au niveau de l'ICANN et nous avons disponible une charte. Il n'y a pas encore de politique puisse fonctionner pour tous les registres. Ce qui peut fonctionner pour un registre peut ne pas fonctionner pour un autre. Et nous voulons travailler en collaboration pour pouvoir échanger les meilleures pratiques qui existent entre les meilleurs acteurs. Et finalement, nous voulons rédiger un document cadre pour établir les critères de base. Nous espérons que pour la fin janvier 2016, ce document, une version préliminaire de ce document pourra être publiée pour un avis de prendre la parole. Nous n'avons vraiment plus de temps. Je vais donner la parole à John Carr. Passe sa présentation. John Carr prend la parole. Je vais être très bref. Bien évidemment, notre coalition en faveur du bien-être des enfants est très intéressée à ces sujets dont on discute. Nous travaillons de manière très active avec l'ICANN depuis la création de la dernière série de nouveaux GTLD. Et je pense qu'il est évident que si l'on va créer un espace qui va nous amener à la création de sites web qui ont pour intention d'attirer de grandes quantités de jeunes et d'enfants, à ce moment-là, eh bien, cela peut poser des problèmes au niveau de la sécurité. C'est pour cela qu'il faut agir dès le départ, bien en amont. Nous voulons nous assurer que les erreurs qui ont été faites dans la première série de nouveaux GTLD ne se répètent pas dans un deuxième processus. Vanavit prend la parole. Merci beaucoup à tous les orateurs. Je m'excuse vraiment parce qu'on n'a plus de temps. Nous allons donc passer en revue les questions qui ont été posées et nous allons publier les réponses sur notre web. Alice Mounia prend la parole. Nous n'allons pas répondre aux questions en ligne, mais nous vous demandons de poser votre question. Wendy Seltzer, au micro. Je voulais faire référence à la question de la sécurité publique. En tant qu'auteur d'un des commentaires de ce processus de enregistrement des services de enregistrement fiduciaire et d'anonymisation, je travaille avec les victimes d'abus, les femmes victimes d'abus et des cas où des informations privées sont publiées en ligne. Nous demandons, quand nous avons rédigé ces commentaires, il a fallu se mettre en contact avec les organisations de la loi pour qu'ils sachent que ces informations avaient été publiées sur Internet. Donc, il s'agit d'un processus circulaire. Beaucoup d'entre nous pensons à la publication parfois obligatoire d'informations. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le Juiz. Cela porte atteinte à la vie privée et cela pose problème du point de vue de la sécurité publique et privée. Alice Mounia prend la parole. Je tiens à remercier tous les membres de ce panel ainsi que le public qui a participé. La prochaine fois, nous allons avoir besoin de 3 heures et non pas 1 heure et demie. Nous allons essayer de prévoir ça pour la prochaine réunion de l'équipe.